Vous écoutez
RMC. RMC, en route pour Paris 2024.
Avec notre première invitée, Alexandra de Navassel, présidente de l'association familiale Pierre de Coubertin. Merci, bonjour Alexandra.
Bonjour, merci beaucoup de m'avoir aujourd'hui.
Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous êtes représentante de la quatrième génération. Pour résumer, votre arrière-grand-mère Marie était la sœur de Pierre.
Exactement, nous sommes donc des petits-neveux et depuis qu'il est mort, nous sommes une petite trentaine maintenant. Donc on s'est un petit peu organisé autour d'une association pour représenter son esprit. Une petite chose quand même que je voudrais clarifier, c'est que c'était son intention en fait que la famille reste un peu mobilisée. C'est-à-dire que quand il a quitté le CIO en 1925, il avait demandé à un neveu, donc c'était un fils de Marie, sa sœur, puisque ses deux enfants malheureusement n'ont pas... l'un était très malade dès la naissance et la deuxième s'appelait René et il l'appelait le petit oiseau, c'était une personne très fragile. Et pendant ces années, il faut savoir qu'aussi tous les hommes partaient travailler à la guerre et donc ils très peu revenaient, beaucoup mouraient, pardon. Et donc en fait, il a joué un rôle très important dans la famille de Marie, donc de mon arrière-grand-mère, en tant un peu que père, deuxième père, parce qu'elle a perdu son mari très tôt. Voilà, donc c'est une figure très présente dans notre famille. Et il avait demandé, donc en quittant le CIU en 1925, à un de ses neveux, qui était l'aîné de la famille de Marie à l'époque, qui s'appelait Maurice, de le représenter au CIO, donc d'être vraiment une présence pour être garant de sa mémoire, s'assurer que voilà, le CIO n'allait pas partir dans une autre direction, parce qu'il y avait vraiment, à l'époque encore, c'était assez fragile, il n'y avait pas 206 nations qui se présentaient, et donc il y avait un petit risque que ce soit... pris par un pays ou un mouvement politique ou je ne sais quoi.
Et que l'Europe était encore dans des périodes de guerre. Évidemment, en France, on a connu 1870 juste avant, et puis voilà, la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale qui vont arriver. Le but de l'association familiale, qui a un peu moins d'une dizaine d'années, quel est-il ? C'est voilà, rappeler sa mémoire, son héritage, le cultiver ?
Oui, alors en fait, notre mission, c'est vraiment d'être garant de sa mémoire, c'est-à-dire être un référent pour parler du personnage, expliquer un peu pourquoi est-ce qu'il a fait cette idée, qu'il a eu cette idée un peu folle à l'époque. Et puis, nous travaillons aussi, on représente la famille au CIO, donc nous sommes représentants officiels et on a la chance, du coup, d'être invités à des moments un peu symboliques, comme la cérémonie d'ouverture, des choses où sa mémoire est encore très présente.
Vous étiez à la flamme à Olympie ?
J'étais à la flamme, oui, à Olympie le 16 avril. Et on a aussi eu la chance on nous a demandé d'être membre d'une des commissions, la commission culture et héritage, dont le but est de promouvoir la philosophie, les valeurs. Et en ce sens, on collabore avec eux. Et on a des projets pour Paris.
Ah, quels sont-ils ? Allons-y.
Alors, on a trois projets. Je ne vous cache pas qu'on les a bien pensés ensemble avec les membres du CIO. On les a aussi, bien sûr, discutés avec le COJOP. Le premier, c'est un anniversaire qui nous paraît un moment historique. Et c'est de fêter les 130 ans du CIO, qui auront lieu le 23 juin 2024, puisque c'était donc à la suite d'un congrès qui s'est terminé le 23 juin 1894. Donc ça sonne 130 ans, ça nous paraissait quand même assez symbolique de faire quelque chose. Donc il s'agit de faire un concert dans l'amphithéâtre où a eu lieu le fameux discours de la rénovation des Jeux modernes. Donc ça, c'est un concert qui est vraiment consacré à la jeunesse, hein, que nous allons faire en collaboration avec le CROUS, mais aussi... l'orchestre et le chœur des universités de Paris. Enfin, on a un panel qui représente un peu les étudiants. Et bien sûr aussi Thomas Barr qui va être présent et nous fera l'honneur d'un discours. Donc ça, c'est un grand temps fort. Un deuxième événement qui nous tient beaucoup à cœur, c'est une exposition sur l'histoire de Pierre de Coubertin et les débuts du mouvement olympique. Comprendre un petit peu d'où venait sa pensée, qui l'a influencé, qui était contre lui aussi. Et on va faire un petit zoom sur l'Inde, qui est un pays où l'olympisme est devenu présent et il y a beaucoup de choses qui se passent.
Quand vous parlez, parce que le premier congrès olympique, il a eu lieu à Paris, donc ce fameux 23 juin 1894. Vous parlez d'un amphithéâtre, le lieu plus précisément ?
Alors il s'agit de l'amphithéâtre de la Sorbonne, donc c'est le grand amphithéâtre. Où a eu lieu d'ailleurs les deux congrès qui sont importants, le premier qui était en 92 et qui était une première initiative, mais c'était pas du tout, on l'appelle un peu le premier congrès parce qu'il l'a mentionné dans son discours de fin, c'était la dernière phrase littéralement de son discours, l'idée de faire rénover les Jeux, mais il a planté en fait une petite graine. Deux ans plus tard, il a organisé donc le congrès qu'on connaît bien qui s'appelle Congrès Olympique dans 1894 qui s'est terminé le 23 juin.
Parce que c'est vrai que c'est à une époque, au niveau géopolitique, il n'y a pas de Société des Nations, pas les Nations Unies. Rien ne rassemblait finalement les différents pays, les différents peuples. On était encore, on l'évoquait il y a quelques instants, beaucoup de guerres. Il n'y avait pas forcément non plus des démocraties, des républiques partout, encore des royaumes, des empires. Mmh.
Vous résumez bien son intention. En fait, c'était exactement l'idée. L'idée, c'était de réunir les peuples qui étaient encore dans des dynamiques nationalistes et puis beaucoup de craintes de l'inconnu. Enfin, il y avait tout ce qui pouvait stimuler la guerre. Et donc, son grand souhait, mais c'est une idée qui vraiment est reprise des Jeux Olympiques antiques, parce qu'en fait, quand on regarde l'histoire des Jeux Olympiques antiques, donc là, on est en 776 avant Jésus-Christ, l'histoire, c'est vraiment un roi d'une des cités de Grèce qui va voir la Pythie, parce que toutes les cités se battent entre elles. Donc en fait, le territoire grec est en train de s'entretuer, pour résumer. Et donc la Pythie lui dit, mais pourquoi tu fais pas réunis les hommes autour d'une cause qui les dépasse et fais des jeux pour les dieux. Alors à l'époque, c'était les dieux. Donc Pierre de Coubertin s'est dit, on va réunir les hommes et les réunir autour de valeurs communes. Le sport, qui sont des valeurs qui n'ont pas de religion, qui n'ont pas de barrière de langue, qui sont comprises de manière assez universelle et qui permettent d'être un socle sur lequel tous les pays peuvent s'entendre. Avec donc sa proposition, c'est-à-dire trois valeurs olympiques, qui sont toujours aujourd'hui les grandes valeurs olympiques. Le premier qui est l'excellence, donc l'excellence c'est la recherche du meilleur de soi. Le deuxième c'est le respect des règles, mais aussi le respect des autres, le respect des différences. Et le troisième qui est l'amitié. L'amitié entre les peuples.
Il y a une nuance particulière, parce que quand on parle de l'excellence, à l'époque, on associe beaucoup le sport à la gymnastique militaire.
Oui.
Et lui, ce n'était pas du tout son parti, il était presque avant-gardiste, parce qu'on parle du sport à l'école, lui, il avait vraiment une vision assez scolaire pour le sport, voilà, dès le plus jeune âge, d'éducation, à travers ce prisme, et pas du tout le côté militaire, qui était quand même assez bien ancré à l'époque.
Tout à fait. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'était sa grande idée, c'était de démocratiser le sport. Le sport à l'époque, qui était réservé, comme vous l'avez mentionné, à l'armée, c'était en fait un outil un peu dit de discipline, le sport. Et on le concevait pas du tout. D'ailleurs, les sports n'existaient pas comme on les connaît aujourd'hui. On développe des sports, le breakdance, fabuleux comme nouveau sport. Mais il faut imaginer qu'à l'époque, il y en avait peut-être 9, c'est tout. Enfin, on en faisait très peu. Ils étaient réservés parfois à l'élite ou alors donc à l'armée. Lui, il a été très inspiré par le modèle anglo-saxon. Et en fait, sa première mission, et ce qui finit, d'ailleurs, c'était quelque chose qu'il a gardé en tête jusqu'à la fin de ses jours, c'est de rendre le sport accessible pour tous, comme un outil de développement, comme un outil de, comme une discipline tout à fait aussi importante que l'intellect ou que l'étude analytique de qu'on peut faire à l'école. Pour lui, c'était vraiment un élément indissociable et complémentaire. Le sport. Donc le sport à l'école, c'était sa première intention. Ça l'a toujours été. D'ailleurs, jusqu'à la fin, il a travaillé sur créer des universités ouvrières pour y mettre du sport, le sport pour tous. Donc oui, sa première quête, c'était vraiment le sport comme une discipline de vie.
Alors aujourd'hui, on ressort un peu des écrits de l'époque, on se dit mais... le baron Pierre de Coubertin était misogyne, il voulait pas vraiment des femmes. On a même dit qu'il était colonialiste, alors qu'il y a un épisode très fort aux Jeux de Saint-Louis aux États-Unis, où on est encore dans un pays en pleine ségrégation, les États-Unis, où on avait réservé une journée anthropologique. Et lui, s'était combattu contre ça. Il avait dit que c'était une hérésie et que c'était pas possible.
Absolument, il a même dit que cela perdra son attrait lorsque les hommes noirs, les hommes rouges, les hommes jaunes apprendront à courir, sauter et lancer, laisseront les hommes blancs derrière eux. Donc il était absolument outré. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de comprendre un petit peu l'époque et où était la pensée, quel était le possible dans les consciences des hommes, parce qu'ils voyageaient quasiment jamais. Il connaissait pas l'Afrique. Quand il la connaissait, c'était avec des propos extrêmement limités. C'était pour venir avec une forme d'idée d'invasion ou de mercantile. Enfin, c'était pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, en effet, il y a toute une époque qu'il faut peut-être comprendre. Ce qui est certain, c'est que dans les faits, alors il y a un autre fait que je trouve très intéressant et qu'on connaît pas de Pierre de Coubertin, c'est qu'il s'est battu pour qu'il y ait des jeux en Afrique. À l'époque, où, alors il faut imaginer aussi que le CIO, il n'était pas tout seul, hein, il était entouré. Il avait donc un comité qui était au début de 13, ensuite qui s'est agrandi. Et ils étaient représentants de différentes nations, toujours internationales, avec cette idée de rester une équipe représentative des différentes parties du monde.
Et neutre.
Et toujours neutre. Donc la grande idée de l'olympisme, c'est que ça n'a pas de religion, ça n'a pas de politique, ça n'a pas de nation. Et d'ailleurs, j'ai plus tellement de choses à raconter. C'était intéressant parce que pour les premiers Jeux qui ont eu lieu à Athènes, pour des questions un peu historiques et symboliques, il fallait rendre les Jeux au pays qui les avait créés. Sa première bataille, c'était de faire en sorte que les jeux bougent dans un autre pays et qu'ils n'appartiennent pas à la Grèce, ce qui était compliqué pour les Grecs qui pensaient que les Jeux allaient toujours avoir lieu en Grèce. Mais oui, donc il a essayé de travailler ou développer les Jeux pour l'Afrique à plusieurs reprises avant la Première Guerre mondiale. Finalement, en 1923, il a réessayé. Donc c'était une de ses grandes préoccupations d'inviter toutes les nations du monde entier.
Dans son héritage, où il fut président du CIO, pas le premier, c'était un grec, mais en 1896, il a pris les rênes du CIO. Il y a le fameux drapeau avec ses anneaux, il y a le déménagement en Suisse, ce côté neutralité.
Oui.
Et il y a évidemment, tout le monde pense à cette phrase, le plus important aux Jeux Olympiques n'est pas de gagner, mais de participer, une citation tronquée en fait.
Oui, alors c'est amusant parce qu'on voit à quel point l'histoire simplifie, raccourcit, c'est partie de ces choses qu'il faut peut-être clarifier. Parce qu'en fait, ça ne résume pas tout à fait sa pensée. Ce qu'il a dit, c'est le plus important, ce n'est pas de participer. Pardon, le plus important, ce n'est pas juste de gagner, c'est de s'être bien battu. Donc, toute la logique est sur ce qu'on met dans le jeu. Et l'idée, c'est de donner le meilleur de soi.
Le don de soi, voilà, d'avoir tout fait pour...
Le dépassement, de pas penser à juste à la médaille ou à être meilleur que les autres, être dans une dynamique vraiment de dépassement de soi-même, dans une conscience aussi de ses limites et du mieux que l'homme peut donner à l'humanité, parce qu'on fait des records à chaque fois et c'est des prouesses admirables qui donnent un exemple aussi à la jeunesse.
Alexandra de Navassel, présidente de l'association familiale Pierre de Coubertin, est avec nous en direct sur RMC. Alexandra, aujourd'hui, vous nous avez raconté vos liens avec le CIO, vous êtes régulièrement invitée aux grands événements, vous faites partie de commissions. Et pour ces Jeux de Paris 2024, alors la flamme passera près du château de Mirville, vous avez des liens, qu'est-ce qui se passe concrètement le lien entre les descendants du baron et l'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024?
Alors oui, on travaille avec différentes toutes les personnes qui sont parties prenantes et qui veulent mettre en lumière l'esprit olympique sont nos partenaires, notamment donc la direction culture du COJOP avec qui on a des liens très agréables où on collabore un peu sur nos projets, on s'assure que on est synchronisé parce qu'il y a tellement de choses et d'ailleurs c'est merveilleux. La France entière va être au rendez-vous en tout cas en ce qui se concerne la culture, les associations sportives, les différentes régions, la flamme qui passe dans toutes ces parties de la France. Donc c'est vraiment une très belle fête nationale et une fête du monde où on reçoit le monde. Donc vous m'avez mentionné la flamme et Mirville. Donc oui, Mirville c'est un lieu qui a beaucoup d'héritage pour nous. Donc c'était une maison qui appartenait à sa mère et qui est en Normandie et où il allait régulièrement pour écrire, se ressourcer, faire du sport. C'est un espace qui lui était cher. Et la flamme va y passer le 5 juillet.
Et vous serez présent, j'imagine.
Absolument. Ça.
On lui doit aussi les Jeux d'hiver.
Oui.
Chamonix. Et sur Paris 2024, est-ce que vous avez retrouvé des écrits qui remontent évidemment à 1924 avec ces Jeux d'été de Paris, qui d'ailleurs vont marquer un peu un éloignement juste après ces Jeux par rapport au CIO. Est-ce qu'on voit qu'à l'époque aussi, il y avait un peu du JO bashing, entre guillemets, en 1924 ou pas du tout?
Alors, il y a eu du bashing un peu à toutes les périodes. Il y a eu beaucoup de résistance. Il faut dire qu'au tout début, personne ne croyait vraiment à ces Jeux. Donc, il a dû quand même lutter très fort. Mais 1924, c'est une date en effet symbolique parce que c'est une date où il y a eu beaucoup de choses. C'était ses derniers Jeux. Il s'est retiré après. Donc, il est parti à la retraite. Mais il y a quand même des choses qui se sont passées qui étaient assez symboliques. Une première chose, c'est aussi le premier village olympique. Donc, ça, c'est une création qu'il a fait. Et le village olympique, c'est vraiment un lieu qui symbolise bien la pensée olympique, c'est-à-dire cette réunion internationale, tous ces pays du monde entier, 206 nations cet été, qui mangent ensemble dans la même cafétéria, qui se soutiennent avec cette compréhension de l'effort qui est nécessaire pour arriver là où ils en sont. Donc, c'est un village international qui était mis en place la première fois donc à Paris. Paris, donc c'était aussi l'occasion de faire beaucoup de nouvelles choses. Il y a eu des... Donc il y avait là une présence de femmes, ça vous le saviez, mais il y en avait un peu plus à chaque jeu. Donc ça va être une opportunité de peut-être rappeler les choses qui ont été innovées et commencées en 24.
Eh bien, merci beaucoup, Alexandra de Navassel, donc descendante, représentante de la quatrième génération de la famille de Coubertin, d'avoir bien fait une petite halte dans le studio d'RMC pour ce point d'histoire. Ça fait toujours du bien de se rappeler les racines et un petit peu ce que l'histoire nous enseigne aujourd'hui. Merci beaucoup, Alexandra.
Merci beaucoup pour votre accueil.